Le journal Mireille Boukassa.
Clôturière des états généraux des mines, le gouvernement promet de publier jeudi prochain le rapport de la commission chargée de réviser les contrats miniers. Grève dans les universités et institutions supérieures, le gouvernement dit avoir résolu tous les problèmes et invite les professeurs à reprendre les cours, mais ces derniers attendent évaluer les propositions du gouvernement avant de décider de la levée ou non de la grève. En province orientale, les experts congolais et ougandais sont autour d'une table depuis hier à Bunia. Ils reconstituent les limites frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais promet de publier jeudi prochain le rapport de la commission chargée de réviser les contrats miniers. Ce rapport est attendu depuis plusieurs mois et c'est le ministre des Mines qui l'a annoncé hier soir. C'était à la clôture des états généraux des mines organisés à Kinshasa. Ces assises de 5 jours ont regroupé les opérateurs miniers, les ONG et les services de l'État. Tous ont évalué le code minier et ses applications. Il y ressort un constat. Le secteur minier n'a pas créé des richesses comme attendu. Des mesures urgentes s'imposent donc, Georges Kamudiova.
Mesures urgentes ou immédiates, tout le monde est d'accord. Il faut sauver la situation, d'abord par la lutte contre le gel des titres et carrières miniers. Sur 4500 permis de recherche, seules une dizaine sont arrivées à l'exploitation. Les titulaires défaillants seront déchus, promet le gouvernement. Ensuite, il faut identifier ceux qui exploitent frauduleusement et évaluer le capital de l'État dans certaines sociétés minières. Mais il faut surtout contrôler les ressources elles-mêmes. L'établissement d'un certificat de type Kimberley s'impose pour les autres matières comme cela se fait pour le diamant. Cette mesure est à accompagner avec la mise en place des marchés boursiers de diamants et d'autres substances minérales. Une initiative amontée par les privés et dont les buts est la transparence. Pour voir encore plus clair, l'urgence exige qu'il y ait une structure qui coordonne la lutte contre la fraude minière et la contrebande. Pour réussir un tel pari, les différents services de l'État doivent œuvrer ensemble pour éviter aussi les conflits fonciers.
Il ressort également des résolutions des états généraux des mines que le code minier n'a pas été appliqué comme il se doit. Les représentants des creuseurs artisanaux pensent qu'il ne s'agit pas seulement de la défaillance des services de l'État, mais du code lui-même. Selon la FECODI, Fédération Congolaise de l'Or et du Diamant, ce code est à réécrire totalement. Albert Kalongi, président de la FECODI.
Il est à réviser de A à Z. Ce monsieur-là qui nous représente, au sein des deux chambres du Parlement, ils doivent réfléchir pour que le peuple se retrouve, puisque nous sommes bien placés pour dire qu'il fallait qu'on revoie les codes, il fallait que l'espace soit ouvert grandement aux exploitants artisanaux, et puis pour augmenter la production artisanale au fait, puisque sans les creuseurs, il n'y a pas l'exploitation artisanale. Les gens sont en train de partir ailleurs, puisqu'ils ne se retrouvent pas. Qu'on cesse avec ces histoires ici des carrés miniers, qu'on donne la chance à tout le monde pour travailler. Les creuseurs n'ont pas la place. Il y a un monsieur qui est là avec 5-6 carrés lui-même. Pourquoi 5-6 carrés? Ça, nous trouvons que ce n'est pas une bonne façon de faire au fait.
De notre côté, selon les recommandations adoptées hier, les options fondamentales du code minier restent valables, ce qui réjouit plusieurs opérateurs miniers qui estiment qu'une révisitation de ce code créerait encore des désordres. Une autre partie satisfaite de cette recommandation est constituée des comptoirs agréés du Nord Kivu. Leur président se réjouit surtout de l'initiative visant à établir un certificat des autres matières premières. John Cagnoni.
S'il arrivait au niveau du gouvernement qu'il y ait une certaine certification des matières qui viennent de l'Est du Congo, qui viennent du Congo d'une manière générale, ça sera une très bonne chose, puisque ça ne pourra que contribuer positivement à la balance de notre économie. Vous le savez, il arrive souvent que nous exportions la marchandise, mais dès que cette marchandise sort des frontières de la République démocratique du Congo, elle est considérée comme d'origine autre que le Congo. En ce qui concerne par exemple l'Est du Congo, la castérite et ses accompagnateurs, je peux vous confirmer que depuis quelques mois, sur chaque fruit qui est exporté, nous avons un certificat d'origine qui vient de ce qu'on appelle les centres d'expertise et d'évaluation des matières précieuses. Et de ce côté-là, nous, c'est une chose qui nous intéresse et ce serait une très bonne chose pour nous.
Concernant toujours ces assises sur les mines, l'initiative pour la transparence des industries extractives, elle, compte s'impliquer dans la réussite des différentes recommandations visant la transparence. Mais ce sont surtout les ONG congolaises qui sont sceptiques quant à l'application même des résolutions. Écoutez Rachidi Akida de la Ligue contre la fraude et la corruption LICOF.
Depuis longtemps, on voulait qu'il y ait quand même une commission qui doit lutter contre la fraude, mais l'exploitation frauduleuse, tout ça, vous savez. Nous sommes satisfaits aujourd'hui que cette structure soit acceptée et qui sera bientôt mise sur pied. Même le code minier, ça a été bien adopté, ça a été bien accepté, même les lois ont été coulées sous forme de résolutions, mais justement, ça a été mis dans les tiroirs, ça n'a pas été appliqué. C'est ça le problème, c'est ça le drame, même aujourd'hui. Je crois que j'ai peur que ça ne soit pas appliqué. Mais j'interpelle, n'est-ce pas, le gouvernement, le Parlement et le Sénat, que cette fois-ci, qu'ils se montrent quand même sérieux dans l'applicabilité, n'est-ce pas, de ces résolutions.
Dossier signé Georges Kamoudjova. En rapport avec ce dossier minier, vous suivrez à 7h30 heure de Kinshasa, Gérard Tamboué, directeur des relations publiques à la Société minière du Katanga. Il sera l'invité de Radio Kapi. Nous l'avions dit dans le sommaire, le gouvernement de la République a répondu à toutes les préoccupations des professeurs d'université et autres instituts supérieurs en grève. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, il a déclaré, invite par conséquent les enseignants à reprendre les cours. Hier lundi, à l'université de Kinshasa, une rencontre a mis autour d'une même table le ministre de tutelle et les représentants du corps académique. Objectif, trouver des voies et moyens pour mettre un terme à la grève qui paralyse les institutions supérieures. Le ministre Léonard Massougarou Gamika a tenu à apporter quelques éclaircissements et autres pistes de solutions. On l'écoute.
Les 18 milliards n'étaient pas dans la loi budgétaire. Il fallait que je puisse éclairer cela au niveau du personnel de l'enseignement supérieur que ces 18 milliards n'existaient pas. Par contre, le gouvernement s'est engagé à ajouter pour le corps académique 500 $, pour le corps scientifique 100 $ et pour le corps administratif 50 $. C'est une avancée significative par rapport aux autres. Nous avons pensé avoir vidé le problème des enseignants. À toutes les revendications de syndicats et associations de l'enseignement supérieur et universitaire, le gouvernement de la République est à apporter une réponse et que nous ne voyons pas l'importance pour l'université de Kinshasa et l'université pédagogique nationale et tous les autres qui sont dans cette voie-là de continuer avec la grève qu'ils devraient reprendre.
De leur côté, les professeurs affirment que le montant de 18 milliards de francs congolais existe certes, mais dans les frais de fonctionnement du ministère des Lessus. En tout état de cause, ils attendent d'évaluer les propositions du gouvernement au cours de leur prochaine assemblée générale avant de décider de la levée ou non de la grève. Le professeur Kabamba Mwefu, président de l'association des professeurs de Kinshasa à Pukine.
Lorsque monsieur le ministre parle des 18 milliards qui n'existent plus, c'est-à-dire que les 18 milliards ne sont pas affectés dans les rubriques rémunération. Mais les 18 milliards en question sont dans le budget de fonctionnement du ministère, existent de ce côté-là. C'est-à-dire que le niveau de l'autorité budgétaire n'a pas placé ça dans les rémunérations. Ça existe effectivement. Au niveau du corps académique, nous avons des propositions constructives qui peuvent amener à ce qu'on paye au mois d'avril. Comme tout le monde. C'est parce qu'il y a eu une avancée avec la proposition des étudiants qui est venue renforcer nos propositions. Si jamais ces propositions étaient acceptées, je crois qu'il n'y a pas de problème pour qu'on arrête la grève.
Le ministre dit qu'à partir de demain, vous reprenez les activités. Comment réagissez-vous?
Nous avons une assemblée qui va se tenir le vendredi. Dans l'entretemps, avant qu'on arrive au vendredi, il faudrait qu'on se rencontre au niveau du ministère pour discuter et présenter les propositions que nous avons, si ça pouvait amener des solutions acceptables par le ministère et par le gouvernement.
Parmi les points abordés au cours de la rencontre d'hier à l'Unikin figurait aussi celui de la bourse des étudiants finalistes. Selon le ministre Léonard Massouga Rugamika, après concertation avec son collègue du budget, il a été décidé que la bourse soit désormais gérée par le ministre de l'ESU. Elle sera par la suite transférée dans les comptes des établissements. Elle sera donc payée par les chefs des établissements. C'est un dossier signé Paul Matendo. Mois de mars, mois de la femme, les femmes policières revendiquent le respect de la parité lors de formation et recyclage, l'accès aux postes de commandement et la fin des violences sexuelles dont elles sont victimes dans leur lieu de travail. En réponse, l'inspecteur général de la police promet aux femmes policières qu'elles occuperont très prochainement des postes de commandement. John Numbi l'a déclaré hier lundi lors de la clôture de l'atelier de réflexion organisé par la section genre de la MONUC en collaboration avec la police nationale. La cérémonie avait pour objectif la remise officielle de recommandation de la femme policière aux autorités. L'inspecteur général de la police, John Numbi, est au micro de Nadine Foula.
Lorsque c'est le gouvernement qui décide la parité, nous ne pouvons que suivre la volonté des autorités de la République en essayant de respecter la parité femmes-hommes. Surtout que moi-même, j'ai une attention tout à fait particulière à leurs revendications, donc ils vont obtenir leurs réclamations de ma part.
Parmi les frustrations de femmes policières, nous avons noté les femmes qui ne sont pas gradées et celles qui sont sexuellement harcelées. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Nous sommes en train de mettre des mesures assez sévère pour protéger la femme et nous accordons une attention tout à fait particulière dans la promotion et même dans la nouvelle affectation qui va avoir lieu d'ici 15 jours. Nul ne peut être au-dessus de la loi et nous, policiers, nous devons être des modèles. C'est-à-dire, celui qui commet les abus sexuels, s'il est agent de police, doit être puni sévèrement.
Dans la seconde partie de notre édition, nous irons en province orientale, précisément à Bunia, et là nous parlerons de la reconstitution par des experts congolais et ougandais des limites frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Mais d'abord, l'actualité en bref. Coupe du Congo de football, la province de Bandundu connaîtra son représentant à la phase finale de la 44e édition cet après-midi. Ce sera à l'issue du match qui opposera au stade 6 mai de Bandunduville l'équipe locale de Malebo à Vutuka de Kikwit. En dehors de nos frontières, nouvelle formation d'opposition au président Denis Sassou Nguesso, créée par le général congolais à la retraite Emmanuel Ngwelondele Mongo, ex-directeur de la sécurité de l'État au Congo-Brazzaville, le parti pour l'alternance démocratique réclame davantage de concertation en vue des élections à venir. Pour rappel, le général Ngwelondele avait appelé à l'abstention en juin dernier avant les législatives dénonçant une mascarade électorale.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Innocent Linga, d'abord le Sud Kivu, parlons de cette manifestation qui a dégénéré à Uvira.
Deux morts et plusieurs blessés, parmi lesquels des civils et des agents de l'ordre, c'est le bilan de la répression contre des manifestants civils hier matin après l'assassinat d'un homme la nuit de dimanche à lundi au quartier Kalundu à Uvira. Les altercations ont duré près de 5 heures du temps avant que la police ait réussi à dégager l'artère qui donne accès au port de Kalundu. Les manifestants réclamaient le casernement des militaires et l'implication des civils dans les patrouilles nocturnes. Trois assassinats et plusieurs cas de rançonnement des civils ont été enregistrés ces mois dans les mêmes quartiers selon l'autorité locale.
Les experts congolais et ougandais sont réunis depuis samedi dernier à Bunia, c'est dans la province orientale.
C'est pour les travaux de reconstitution des limites frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné à Rukwanzi, un îlot situé à 80 km au sud de Bunia dans les lacs Albert. Ces travaux, exécutés par des experts des deux pays, se font suivant les contenus des accords signés au mois de septembre dernier par les chefs d'État ougandais et congolais en Tanzanie. Plus de détails avec Sadala Chabani.
Ce lundi, les experts militaires et civils des deux pays ont visité quelques villages du territoire d'Aru frontalier à l'Ouganda. Dimanche, ils ont été à Kolokoto, 220 km au nord de Bunia, en territoire de Mahagi. Parmi eux, il y a des géographes, des cartographes, des navigateurs et des pilotes. Dans tous les villages visités, ils procèdent à la fouille des bornes posées en 1915 par les autorités coloniales britanniques et belges qui délimitaient la frontière entre les deux pays. S'adressa samedi dernier à la population de Rukwanzi, ils se sont engagés à associer les habitants de ces petits villages de pêcheurs aux travaux de reconnaissance des bornes. Ces habitants n'ont pas cependant bien digéré au sein de la délégation ougandaise la présence d'un administrateur de cet îlot riche en pétrole, déjà nommé par le président ougandais Yoweri Museveni, conformément aux accords d'Ngurdoto. Ces accords prévoyaient l'instauration d'une administration et une police conjointe représentant les deux gouvernements dans cet îlot. Selon un ministre provincial, membre de la délégation congolaise, l'administrateur congolais de Rukwanzi, lui, n'est pas encore nommé par Kinshasa, faute d'infrastructures. Bounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Violence sexuelle, ensemble disons non au silence coupable pour la dignité des Congolais.
C'est le thème choisi pour la campagne nationale d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur les violences sexuelles en RDC qui doit être lancée ce mardi à Kinshasa dans la commune de Lancélé. Cette campagne s'étendra sur une période de mois. L'annonce a été faite hier lundi par les représentants adjoints du Fonds des Nations Unies pour la population, FUNOAP, au cours d'un point de presse.
Et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.radiocapi.net.